Oui, j'ai déjà commencé sans slide, mais simplement pour me présenter avec, je dirais, mes casquettes. Je suis ici pour vaincre les maladies lysosomales parce qu'on a eu la chance d'avoir une cohorte portée par le docteur Bénédicte Théron et tous les acteurs dans les médecins qui ont beaucoup soutenu ce travail pour la cohorte MPS. Donc je suis là à ce titre-là. Mais j'ai aussi quelques casquettes parce que fais partie du comité d'éthique de l'INSERM et puis du conseil d'administration de l'Alliance Maladies Rares, du Board d'Horordis et puis du comité de déontovigilance du LEM également, parce que je pense que c'est important d'avoir ce croisement. Et puis j'ai une grande bienveillance pour les pédiatres, les pneumopédiatres, avec un frère pneumopédiatre. Et puis une histoire avec ma famille, trois enfants, cinq enfants, trois enfants décédés, trois garçons, deux avec une maladie génétique rare, une MPS2, les deux derniers, et l'aîné qui n'a pas eu de diagnostic, qui n'avait pas cette maladie et qui est décédé à 3 ans et demi. Donc c'est aussi une histoire familiale qui m'a poussée à m'engager, qui m'a poussée aussi à chercher, à entamer des recherches en éthique et à passer un diplôme, un doctorat en éthique de la santé au mois de novembre cette année. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc je voulais vous remercier d'être là pour les regards croisés. Et je me suis dit, regards croisés, c'est aussi se regarder. Je crois que c'est ce qui est très important dans nos cohortes, c'est se regarder, être là face à face, regarder dans la même direction, et ça c'est essentiel, car la constitution de ces cohortes pour nous sont indispensables. Je vais l'expliquer très brièvement après pourquoi, mais aussi le maintien dans le temps de ces cohortes. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi d'essentiel par rapport à ces données de santé. Ce maintien dans le temps, il ne pourra pas se faire sans tout le travail autour du consentement, je dirais, du patient, qui est récolté en amont. Et pour pouvoir après garder une validité de ce consentement dans le temps, ce qui me paraît essentiel, sachant que dans les maladies rares, il y a une constante et quelque chose que l'on retrouve toujours, c'est le lien très étroit entre le soin et la recherche. Et on sait très bien que ce qu'on va demander pour le soin en consentement ne sera pas la même chose que ce qu'on demandera pour la recherche. Et je pense que c'est quelque chose, quand on constitue une cohorte, qui est essentiel dans tout le travail d'information et de consentement. Donc voilà, je voulais insister là-dessus. Quelques particularités très rapides. J'ai pris des exemples précis parce que c'était important pour moi d'avoir ces exemples. Déjà, simplement 7 000 maladies rares, 200 traitements. Donc on voit bien qu'il y a une grande carence au niveau de traitement pour ces maladies. Il y a une grande demande. Et je crois que l'annonce du diagnostic, c'est aussi ça. C'est que malheureusement, elle ne va pas toujours s'accompagner de le soin et elle va justement s'accompagner aussi d'un travail de recherche du médecin parce qu'il est aussi souvent dans nos centres de révision. Dans le centre de référence, les investigateurs sont aussi, nos médecins référents sont aussi les investigateurs de protocole. Donc, il y a ces doubles casquettes. Donc, l'errance de diagnostic, une difficulté de recrutement pour des essais cliniques, alors qui sont à la fois quelque chose de très net, c'est-à-dire que on va avoir besoin pour certains essais d'enfants, par exemple, avec un âge diagnostiqué suffisamment tôt, et on sait que l'âge moyen du diagnostic se fait 2, 3 années plus tard. Donc ça, on a toute cette problématique aussi qui va arriver par rapport à une errance de diagnostic ou en tous les cas des symptômes qui ne sont pas forcément suffisamment criants, donc il y a une difficulté. Donc il y a clairement une perte de chance, à la fois l'errance de diagnostic par rapport à l'essai clinique et puis par rapport dans l'errance de diagnostic aussi, quand il existe un traitement pour pouvoir mettre suffisamment tôt, quand il y en a besoin, la mise sous traitement. Ensuite, l'information limitée. On a bien vu que la complexité des maladies rares, avec un lien pas toujours donné entre le génotype et le phénotype. Et là, il y a toute la difficulté de l'information. Alors, de savoir, quand on va diagnostiquer, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va annoncer. Si on ne sait pas le lien entre le phénotype, le génotype, et ça, les cohortes vont être formidables pour ça, pour pouvoir essayer de trouver ces liens. Et on a pu d'ailleurs, parce qu'il y a une très grande hétérogénéité, on en a parlé pour beaucoup de choses, et puis dans nos maladies, c'est là où elles sont très complexes, elles sont également très hétérogènes. Et puis on peut voir que des essais cliniques, et ça s'est vu pour la mucoviscidose, ont eu lieu sur une mutation génétique très précise, et que là, les registres, et notamment je sais que le registre de la mucoviscidose a été très important pour faciliter le recrutement pour pouvoir avoir des patients. Donc je crois que c'est quelque chose aussi d'important de se dire que le registre est aussi là pour faciliter le recrutement pour des essais cliniques. Et puis on sait aussi que la dispersion géographique est une réalité. On en a parlé par rapport aux équipes de recherche, mais c'est aussi une dispersion géographique des patients. Donc, c'est toute la difficulté de les faire venir là où il y a les essais cliniques. Et le manque de financement qui est à la fois, qui n'est pas toujours lié à la taille, je dirais, de la pathologie, étonnamment. J'ai vu ce matin Crillière-Najjar, toute petite association qui a un essai thérapeutique en thérapie génique, qui a un projet par rapport à un dispositif médical. Il y a des choses, et il y a 17 patients en France. Et de l'autre côté, certaines maladies, comme le syndrome d'Angelman, n'arrivent pas à trouver de chercheurs en France par rapport à sa pathologie. Il y en aura en Israël, il y en aura aux États-Unis, il y en aura en Hollande, mais pas en France. Donc il y a aussi comment motiver les équipes de recherche par rapport à des maladies qui n'ont pas de recherche. C'est, je pense, ça peut être un manque de financement. Après, il y a peut-être d'autres pistes également. Donc cette histoire, moi je suis là pour les associations, il y a toute une genèse du mouvement des maladies rares qui a commencé 83, enfin début des années 80 aux États-Unis, avec toute cette problématique d'accès aux soins et aux traitements. Donc c'est vraiment parti aux États-Unis. En Europe, ça a été différent. En France, ça a été un petit peu différent. Où je dirais, c'est beaucoup plus la mobilisation autour des mouvements HIV qui a fait émerger cette problématique des maladies rares. Mais aux États-Unis, il y a eu cette difficulté par rapport au traitement. Et dès 83, la loi l'orphan drug pour pouvoir donner les conditions pour que les industriels aient un intérêt à chercher et à trouver un médicament. Donc ça a été vraiment les prémices. Ensuite, en Europe, dans les années 90, ça a commencé à bouger. En 97, Euror 10 a été vraiment créé avec le rôle majeur d'associations telles que l'AFM, Vaincre la Muco, AIDE et la Ligue contre le cancer, pour aboutir en 99 au règlement pour le médicament orphelin, voilà, qui était quelque chose d'essentiel. Mais je voulais souligner dans notre regard croisé, ce qui est important aussi, c'est justement souligner que dès le début, tous les acteurs ont vraiment, je crois, porté ensemble ces projets, ont souhaité travailler ensemble. Et les associations, chacun est à sa juste place, mais on est vraiment tous dans on a le même objectif, trouver des traitements, améliorer le quotidien, la qualité de vie. Donc on a eu une loi, la loi du 9 août 2004, qui vraiment a permis d'annoncer la mise en place en 2005 du premier plan national maladies rares. Je mets juste deux lignes. Évidemment, il y a d'autres choses. Je voulais souligner la notion du patient expert. Ça, c'est quelque chose qui vraiment est arrivé avec cette idée de l'implication de l'association, l'implication du patient. La pédagogie du doute. Alors ça, la pédagogie du doute à l'Alliance Maladies Rares, c'est quelque chose qui compte beaucoup parce que c'est aussi toute la capacité pour les professionnels de santé aussi à écouter, à entendre, et dans les maladies rares, c'est essentiel, à entendre ce que le patient à dire sur sa maladie. Donc cette pédagogie du doute aussi a fait partie des bénéfices, je dirais, de toute cette mobilisation dans les maladies rares. Et puis toute la question de l'histoire naturelle, d'une connaissance insuffisante encore que l'on a par rapport à ces maladies rares, et le fait qu'il nous faut des données d'épidémiologie, il nous faut des cohortes, il nous faut des bases de données. C'est quelque chose d'indispensable. Donc vraiment, voilà, je suis ici, mais c'est quelque chose d'indispensable. Donc les cohortes, comment les associations interviennent dans la mise en place des cohortes dans les maladies rares? Et avec une hypothèse très claire, hein, c'est une évidence, mais ça, c'est toujours bon à rappeler. Les bases de données sont des outils indispensables pour améliorer les connaissances et les associations, bon, je parle au titre des associations, peuvent participer à leur développement. Deux exemples très pratiques. Vraiment, j'ai voulu vous faire du très pratique. Je vous ai proposé deux exemples. Un projet initié avec Odile Bovstrup-Tanguy sur les locodystrophies qui s'appelle Locotrite, où vraiment on a cherché à mieux connaître les informations et les attentes des malades vis-à-vis et de leurs proches vis-à-vis du développement des bases de données, de l'encadrement du transfert des données et de la mise en place d'essais cliniques. Parce que finalement, on se demande qu'est-ce qu'ils veulent, patients ? Lui, par rapport à ses cohortes, ses bases de données, etc., qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a envie, quels sont ses souhaits. Et de l'autre côté, avec l'enquête PARM, et là je remercie les centres de référence, les coordonnateurs qui sont là ici ce soir, parce que l'enquête PARM, j'ai eu des questionnaires pour les associations, pour les présidents d'associations, les investigateurs, les promoteurs, pour avoir aussi leur avis. Donc très rapidement, je vais vous les communiquer. Pour PARM, on avait donc très rapidement les investigateurs, 63 réponses pour 131 centres de référence. Et Locotrite, pour les malades et les proches, nous avons quand même 195 réponses, ce qui pour des maladies rares est quand même quelque chose d'intéressant pour pouvoir mesurer l'intérêt que les personnes ont par rapport à ces cohortes. Donc, par rapport à Locotrite, est-ce que vous ou votre proche participez actuellement à une recherche ? Alors, Odile Bovstrup-Tanguy avait initié une base de données déjà depuis assez longtemps. Donc, il y avait déjà des personnes dans des bases de données pour les locodystrophies. Mais on mesure quand même que plus de 50% de ces personnes ne participent pas actuellement à une recherche qui recueille des données personnelles, cliniques et biologiques. Donc, on a voulu savoir ensuite, par rapport avec notre équipe de recherche, par rapport à la majorité des gens qui n'étaient pas dans des bases de données, s'ils sont pas dans des bases de données, s'ils accepteraient d'y participer. Alors là, les gens sont très demandeurs de participer à ces bases de données, puisque plus de 85% d'entre eux accepteraient de participer à une base de données. Et de l'autre côté, moi, je me suis posé la question de savoir quel rôle les associations allaient pouvoir avoir. Et donc, en fait, j'avais huit items. Là, je vous présente, en fait, les trois premiers. Ce sont les trois premiers items. Donc, vous avez, pour la mise en place des bases de données, le rôle de l'association. Premièrement, pour l'association, c'est l'aide au recrutement. Pour les investigateurs, c'est aussi l'aide au recrutement par rapport aux cohortes. Pour les promoteurs, c'est plutôt l'élaboration des outils d'information et de consentement, ce qui vient en deuxième point également pour les investigateurs. En troisième, pour les associations de patients, parce que ça peut peut-être faire un peu peur, il faut apprendre aussi, il y a une pédagogie à apprendre par rapport à la méthodologie. Mais surtout, ce qui était très important par rapport aux huit points, c'était, ça arrivait en deuxième, troisième ou troisième position, aider à définir les données à rentrer en amont des cohortes. Et ça, tout le monde était d'accord là-dessus. Donc je pense que c'est essentiel de savoir quelles données on doit rentrer, quelles sont les données pertinentes à rentrer dans ces registres, des données médico-économiques, on en a parlé, des données qualité de vie. Et le fait de participer et de travailler avec l'association, on peut justement avoir ces remontées de données qui soient pertinentes après dans l'évaluation d'un essai clinique, dans l'évaluation de quand on aura à questionner, je dirais, les données faisant partie du registre. Donc voilà, ça c'était quelque chose d'essentiel et je voulais vous le partager. Et donc, regard croisé, ici je suis là pour les MPS. C'est essentiel parce que c'est la participation de l'association. Et là, je parle d'une de notre salariée Delphine Genevaz qui travaille dans le comité de pilotage, qui a à cœur de travailler sur ce sujet et qui va s'occuper des données médico-économiques. Nous, en tant qu'association, on a informé de l'intérêt de faire partie d'une cohorte, de quels peuvent être les objectifs d'une cohorte, informé là-dessus. Et puis, la communication aussi entre tous, qui est assez lignée aussi dans nos maladies lysosomales, c'est qu'il y avait déjà, avec l'existence de traitements, nous avions un CETL, avec déjà des rencontres régulières entre l'association et les médecins et les investigateurs Et je crois que ça a déjà donné le terreau pour que cette cohorte prenne rapidement corps. Donc c'était essentiel d'avoir cette communication entre tous, avec le travail avec les promoteurs, ce qui est essentiel aussi, et favoriser les coopérations internationales. Et je pense que là aussi, les associations ont un rôle à jouer, parce que nous avons des réseaux, et dans notre réseau MPS, nous avons un réseau MPS international, un network. Et je pense que là aussi, il y a des choses à faire au niveau européen. Donc, je voulais déjà vous dire merci. Les clés du succès, la confiance, l'écoute, le respect, le dialogue. Et puis, merci, et merci surtout aux patients qui acceptent que ces données soient rentrées. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur, mais il faut surtout bien l'informer avant de ce qu'on va faire après de ces données. Mais après, il est très généreux, donc il acceptera sans problème. Voilà. Merci.
Merci pour ce...